Margaretha, la princesse de la paix, par Zelma Lagerlöf. Voici comment les choses se passèrent lorsque Margaretha, la princesse de la paix, qui s'en allait en Norvège pour épouser le roi Magnus Barfort, arriva à Stogardsbyn, en Vestrogothie, un peu au-dessous de Kungala. Les premières qui l'aperçurent du haut d'une colline, ce furent deux vieilles femmes qui avaient été ramassées de la mousse dans la forêt. Elles jetèrent aussitôt leur fardeau et coururent annoncer au village que quelque chose de clair et de charmant chevauchait au loin sur le sentier de la forêt. Mais personne ne voulut les croire. « Malheur à vos yeux obscurcis !» leur cria-t-on. « Vous n'avez vu que la brume des marais qui dansait autour du trône roux des pins ?» Bientôt, après les vieilles femmes, Rasmus, le jeune gars charbonnier, accourut. Ses yeux brillaient. Il était si essoufflé qu'en arrivant au village, il put à peine parler. Mais dès qu'il le reprit haleine, il se mit à crier à tue-tête. « Soyez heureux, la princesse vient. J'ai vu la belle princesse qui venait doucement sous les arbres. Soyez heureux !» Le charbonnier Rasmus s'était arrêté à la place triangulaire du village où trois chemins se croisaient. Quelques paysans y causaient à voix basse de la guerre qui ne tarderait pas à éclater avec la Norvège, et quand ils entendirent Rasmus, ils crurent que le jeune gars se moquait d'eux. « Fils d'ours !» lui dirent-ils en le menaçant du poing. « Tais-toi si tu veux garder la vie, pas un mot de plus vaut rien !» Mais Rasmus le charbonnier ne se taisait pas facilement, et il cria plus fort. « La princesse vient ! Les oiseaux silencieux de la forêt des pins l'ont saluée de leurs chants et de leurs gazouillis. Là où elle passait, l'écureuil se laissait glisser du haut de son arbre et se tenait immobile sur la branche la plus basse, la queue en bouquet et les yeux comme des braises, et le coq de bruyère s'envolait avec un bruit de tonnerre. » À ces mots, père, le forgeron se précipita et le saisit par l'oreille. « Tu dis ? » siffla-t-il entre ses dents. Tu dis que tu as vu la princesse. Ce n'était que la dame des bois, comprends-tu, la belle dame des bois. Dieu a pitié de nous, la princesse ne viendra pas. » Bien que personne ne voulût y croire, le bruit ne s'en répandit pas moins d'un bout à l'autre du village, du pauvre village que les guerres des années précédentes avaient incendié et qu'on n'avait point osé reconstruire par crainte des guerres futures. Mais de toutes les caves et des masures et des cavernes où ils s'étaient réfugiés, les gens sortaient, et timidement, le visage émacié, le corps couvert de haillons, il s'approchait de Rasmus pour entendre son histoire. Quand le forgeron père vit leur nombre croître, il pinça si durement l'oreille du jeune gars que celui-ci en poussa un gémissement, et en même temps, il essayait par de bonnes paroles d'obtenir son silence. « Il ne faut pas te moquer de pauvres paysans comme nous qui habitons ce pays de frontières et qui supportons toutes les misères des guerres que se font les rois du Nord. Nous sommes des brebis séparées du troupeau. Les ours nous donnent la chasse et nous poussent jusqu'au précipice. Chaque jour et à chaque instant, la mort cruelle est là et nous la regardons dans les yeux. » Pendant que le forgeron parlait, les gens s'étaient amassés. Il y en avait un, nommé Hallvard, qui, persuadé que la guerre allait recommencer, avait fait traîner la veille sur la grande route le coffre où il serrait son argent et qui invitait les passants à en prendre ce qu'ils voudraient. Il y avait aussi des habitants de Vestergarden qui avaient converti tout leur héritage en ripaille et qui attendaient la mort dans l'orgueil de leurs péchés. Il y avait encore les fermiers d'une petite ferme située tout en haut du village. Ceux-là avaient mis le feu à leur meule de foin et avaient abattu leur bétail pour qu'il n'en tombât rien aux mains des Norvégiens. Ils étaient taciturnes et calmes, mais avec de la folie dans les yeux. Et le forgeron craignit, si on leur faisait espérer la paix, tout ce qui pourrait sortir de leur désespoir. Ne comprends-tu pas que c'était la dame des bois ? Répétait-il à voix haute et de façon qu'on l'entendit bien. Elle rôde là-haut sous les forêts, elle sourit et elle roucoule, et elle lance des œillades douces, et elle vous fascine les yeux, à vous, charbonniers. Elle sait que l'été passé, le roi Inge a une entrevue à Kungala avec le roi Magnus de Norvège. Elle sait qu'on y décida de sceller la paix par un mariage entre la fille du roi Inge et le roi Magnus. Et comme elle sait aussi que nous épions la princesse de la paix, elle l'imite et elle empoisonne notre vie, elle se plaît à nous tromper et à se jouer de nous, la vile troll. » Le charbonnier Rasmus écouta tranquillement père le forgeron, et quand celui-ci, sûr de l'avoir convaincu, le lâcha, il repartit de plus belle. « La princesse vient, j'ai vu la princesse !» Et pour qu'on le crût, Il parla de sa couronne qui ressemblait à une fleur sous les perles de la rosée et de la housse de son cheval qui brillait d'un éclat pareil à celui des champignons rouges. Mais tout à coup, la vieille femme, Sigrid Thordsdottir, fendit la foule. Elle brandissait son bâton et s'écria « Qu'est-ce qui dit que la princesse vient ? Je sais ce qui va venir, moi. » Tout le long hiver, je suis resté seul dans ma cabane à regarder la fumée de mon âtre. Et chaque soir, la fumée était pleine de présages. Elle se remplissait à mes yeux de figures qui portaient des javelots et des cuirasses. Et ces figures en annonçaient d'autres. Elles annonçaient celles qui, dans la nuit noire, pendant que nous dormons, se glissent jusqu'à nos cabanes. Nous ne les entendons pas venir car nous dormons. Mais nous nous éveillons lorsque le coq rouge commence à chanter sur nos toits et que la fumée nous étouffe et que les gens du roi norvégien poussent leurs cris de triomphe et que nos murs brûlants s'écroulent. Des frissons d'horreur coururent sur toute l'assemblée, mais le jeune gars, dressé en face d'elle, lui répliqua « Je me soucie bien de vos nuages de fumée, j'ai vu la princesse, elle luit sous sa couronne, douce et belle. » Alors le forgeron père le saisit, l'entraîna vers la hutte de terre où était sa forge, l'y poussa et roula devant l'entrée la grosse pierre qui lui servait de porte. Mais Rasmus continuait de crier « J'ai vu la princesse, je l'ai vue !» et vous devriez tous vous réjouir de sa venue. » À peine le forgeron avait-il écarté le jeune charbonnier, qu'un homme qui depuis des années vivait exilé dans la forêt, descendit au village. Il ressemblait à une bête sauvage avec ses vêtements de peau et sa longue barbe inculte, mais il souriait en agitant au-dessus de sa tête une branche verte en signe de paix. Il courut à travers le village, il s'arrêtait devant les maisons ruinées et les caves noires et il criait à plein poumon « La princesse vient, j'ai vu la princesse !» Quand il fut devant la maison de Folk le bailli et qu'il eut ainsi crié, le vieux Folk apparut triste et voûté. « La paix soit avec toi, proscrit, lui dit-il. Tu n'as pas besoin de venir avec des mensonges pour te faire pardonner. Je romps le banc qui pesait sur ta tête. Tu ne retourneras plus dans la forêt. Nous qui vivons hors les lois, nous ne pouvons condamner personne à l'exil. » « Mais pourquoi ne me croyez-vous pas ?» répondit le proscrit. « As-tu donc oublié que le roi Inge a promis d'envoyer la princesse de la paix au printemps ?» À ces mots, le vieillard leva sur lui un regard las et découragé. « Que sais-je du printemps, moi » dit-il. « Automne au printemps, c'est tout un pour nous, aux autres paysans. Que la neige reste dans nos champs si elle veut, nous ne les labourerons pas. Que les nuages crèvent et ne se lassent point de pleuvoir. Que les grains pourrissent en terre. Nous ne sèmerons ni nous récolterons, nous ne bougeons plus, nous attendons le désastre et la mort. » Cependant, de pauvres chasseurs et des esclaves fugitifs descendirent à leur tour de la forêt et annoncèrent la bonne nouvelle aux gens du carrefour. Seule la vieille Sigrid Thordsdottir demeurait assise, sombre et amère. « Malheur à qui espère, grommelait-elle, avant d'avoir vu de ses yeux vue la princesse. Quand elle brillera à l'oreille des bois sur un beau cheval ferré d'or, quand sa couronne de perles luira au-dessus de la vallée, alors seulement, les paysans de la frontière pourront commencer d'espérer. » Elle n'avait pas achevé ces mots, que les deux vieilles femmes qui avaient été ramassées de la mousse dans la forêt jetèrent un cri « Sainte Mère de Dieu, aidez-nous !» Et elles regardaient vers la lisière du bois où le chemin sortait de l'épaisse futaie comme d'une voûte obscure. Et tous se mirent à crier « Venez voir !» « Qu'est-ce donc ? Sainte Mère de Dieu, secourez-nous ! Mettez la main au-dessus de vos yeux et regardez vers la forêt. Faites le signe de croix et regardez vers la forêt. N'est-ce pas une princesse qui approche avec un beau cortège ? N'est-ce point la Dame des Bois ? N'est-ce pas un jeu moqueur des trolls ? Est-ce bien la princesse ?» Et tous ces pauvres gens épouvantés et à demi sauvages appelaient et tendaient les mains. Puis ils se jetèrent à genoux et commencèrent à chanter de pieux cantiques. Et quelques-uns s'élancèrent vers le clocher et sonnèrent les cloches à toute volée pour s'assurer que la jolie princesse n'était point un de ces trolls que le carillon des cloches épouvante et met en fuite. Mais quand la vieille Sigrid Thordsdottir, avec ses yeux de presbyte, aperçut la jeune fille à cheval qui sortait de la sombre forêt, elle fut la première à s'écrier « Oh, douce et belle fleur, étoile du matin, tu n'es pas la dame des bois, tu es bien la fille du roi. Nous te rendons grâce et nous te louons. « Tu viens enfin, c'est toi qui descends dans la vallée. » Et elle leva son bâton très haut au-dessus de sa tête, et suivie de toute la foule, elle courut à la rencontre de la princesse. Et tous criaient « Étoile du matin, chère et douce fleur !» Et quand ils furent près d'elle, « Oh ! » s'écriait-il, « comme tu luis, fine et belle sous la couronne, écarte le voile de soie, laisse-nous te contempler !» Ils se pressaient autour du grand coursier noir, qui s'avançait, solennel, sous son carapaçon de pourpre, des plumes flottantes aux oreilles, et la crinière tressée en natte avec des rubans d'or. Margarete, Fred Kula, était escortée par beaucoup de nobles cavaliers et de nobles dames, mais devant son cheval marchait un pauvre paysan qui tenait à la main une épée brisée et qui criait incessamment « Voici venir la princesse de la paix! Voici venir Margarete Fred Kula !» Partout sur son passage à travers les provinces de la frontière, la princesse avait vu la joie et la tranquillité se répandre parmi le peuple. Partout les paysans avaient enfoncé le soc dans la glèbe, et les ménagères avaient étendu, pour les blanchir, leurs toiles écrues. On avait renvoyé au pâturage le bétail amaigri. La jeunesse avait osé remettre ses bagues et ses bracelets. Les haumes et les épées avaient été jetées dans le coffre aux armes. Partout, sur son passage, les enfants et les femmes s'étaient portés au-devant d'elle avec des fleurs et des rameaux aux feuilles printanières. Et là-haut, dans la grande forêt, le vieux charbonnier sauvage était accouru et l'avait fait entrer sous la hutte où il l'avait régalé de baies gelées. Mais nulle part la belle princesse n'avait été saluée avec autant de joie et d'allégresse que dans le village de Rasmus et de Per. Deux hommes prirent son cheval par la bride et le conduisirent avec précaution dans la rude descente. « Dieu te bénisse » crièrent-ils, « Dieu bénisse ton doux et beau visage !» Pendant que le cortège descendait ainsi au village, les paysans couraient à côté de la princesse et lui racontaient en haletant combien ils avaient souffert et attendu. Quand on fut arrivé au carrefour, Fred Kula tira sur ses rênes et arrêta son cheval. Jamais elle n'avait vu pareille misère. Ses regards erraient sur des terrains incendiés, des maisons dévastées et des gens en haillons, et ses yeux se remplirent de larmes. Mais les paysannes lui baisèrent les mains et lui crièrent qu'elle n'était plus triste et désolée, et que toute leur souffrance allait finir puisqu'elle était venue. « Ne songe plus à nous, Fred Kula, » disait-elle, « ne pleure plus sur nous. Pense au roi Magnus à qui tu vas appartenir. Souris-lui en douceur et en grâce. Caresse dans ta pensée ses longs cheveux de soie claire. » Mais, immobile sur son cheval, elle pleurait toujours, et ils essayaient de la consoler. « Ce n'est plus le temps des larmes, jeune fille. Vois, là-bas, le fleuve coule, et sous l'autre rive, c'est la Norvège. C'est Kungahalla, la ville riche en vaisseaux où l'épousé t'attend. Dieu te bénisse. Il se réjouira quand il pourra te presser dans ses bras. Regarde, princesse, on sait déjà que tu arrives. Les feux de joie s'allument sur les collines. Le peuple accourt aux berges du fleuve. Écoute, ils ont appris déjà à crier « Fred Kula, hel, hel !» Les entends-tu? Entends-tu leur voix qui porte loin par-dessus les eaux? Mais Fred Kula ne se laissait point consoler. Elle continuait de contempler ces malheureux en loques, maigres, hâves, décharnés et si sauvages qu'ils ressemblaient à peine à des hommes. Alors elle leva la main en signe qu'elle voulait parler, et un grand silence se fit autour d'elle, et tous, les gens du village comme les hauts seigneurs et les belles dames de son cortège, entendirent distinctement ce qu'elle disait. Elle disait « Rappelez-vous ce que je vous promets ici devant Dieu et devant les saints. Tant que j'aurai des paroles sur la langue et du sang dans le cœur, je travaillerai à l'œuvre de la paix. » Elle se tut. Puis, comme si elle eût pressenti qu'il y avait peut-être un danger pour elle dans sa promesse, elle ajouta « Je le ferai. Cela dut-il me coûter le bonheur et la vie ?» Et ces mots prononcés, elle leva les yeux avec un joyeux courage et ne pleura plus. Elle poussa son cheval sur le chemin qui descendait au fleuve. Sur le bord de la route, un petit pâtre était assis. Il était heureux comme tout le monde, et il voulut offrir à la princesse ce qu'il avait de mieux. Il se mit donc à lui chanter une petite chanson d'amour sur un roi du Nord qui soupirait après la fille de l'empereur d'Orient. Fred Kula arrêta de nouveau son cheval pour écouter l'enfant. Il chantait d'une voix haute et claire. « Il n'y a qu'une femme au monde qui m'enchaîne et qui me force de veiller de longues nuits. Il n'y a qu'une femme au monde qui m'empêche de jouir des plaisirs et des jeux. C'est la belle Vierge de l'Orient qui gouverne elle-même son empire, goéland de combats aux yeux noirs et aux cheveux noirs, Mathilda, la fille de l'empereur. Est-il rien de plus précieux au foyer qu'une femme fière et belle? Maintenant, ma nostalgie me suit partout, au champ et dans la maison. Lorsque je reviens du Ting, la tristesse chevauche devant moi, la tristesse que je ne posséderai jamais la fille de l'empereur. » La princesse écouta la chanson, et en souriant, elle demanda au petit pâtre qui l'avait faite. Personne n'était là pour l'empêcher de répondre, et très fier, il dit « C'est le roi Magnus qui a fait cette chanson en l'honneur de Mathilda, la fille de l'empereur. » La douce princesse de la paix en eut le cœur meurtri. « C'est le roi Magnus qui a fait cette chanson ? » s'écria-t-elle. « Mais alors qu'ai-je besoin d'aller vers lui puisqu'il soupire après la fille impériale de l'Orient ? Il n'a point fait de chanson sur moi, de chanson qui vole à toutes les bouches. Il n'a pour moi aucun amour dans l'âme. » Les paysans, consternés, l'entendirent rappeler son cortège. « Gracieux sire et noble dame, suivez-moi à la maison. Ayez pitié de moi, bon serviteur de mon père. Ne me menez point chez le roi Magnus. Vous avez entendu la chanson. Ce n'est pas après moi qu'il languit. Le roi ne désire que la belle princesse impériale. » Pendant qu'elle parlait ainsi, la foule s'était amassée sur la route et criait « Fred Kula, hell, hell !» Et des milliers de gens accouraient de la grande ville de Kungahala et répétaient comme un écho multiplié « Fred Kula, hell, hell !» Mais la jeune fille continuait de gémir et de supplier « Beau sire et noble dame, ramenez-moi. Nous ferions tort au roi. Je ne veux point le contraindre à me nommer sa reine. Je ne veux que m'en retourner près de mon père. » Et tous ceux qui s'étaient amassés sur le bord du fleuve répétaient « Fred Kula, hell, hell !» Alors Fred Kula se boucha les oreilles avec ses mains. « Oh, si la foudre se taisait !» dit-elle. « Il m'appelle la princesse de la paix. Mais il y aura bien la paix sans que je sois là-bas. Le roi Magnus ne recommencera pas la guerre à cause de moi. Mon retour à la maison ne lui causera que de la joie. » Son cheval était déjà rebroussé chemin, et elle le poussait vigoureusement en avant. Et ceux qui étaient près d'elle se demandèrent « Où va-t-elle ? » Mais en voyant qu'elle se dirigeait vers la forêt, ils se lancèrent à sa poursuite. « Écoute-nous, princesse, écoute ce que te dit cette vieille femme. Ma tête vacille sous le poids des années. Voilà que la guerre va m'enlever mon fils. Princesse, entends-nous. Pourquoi tiens-tu tes mains devant tes oreilles ? Il faut que tu nous entendes. Toutes les portes se refermeront. On rouvrira le coffre aux armes. Le paysan arrachera le soc de la glèbe. Fred Kula, Fred Kula ! Nous n'oserons pas semer le blé. Fred Kula, notre fille ne se mariera pas encore cette année. » Fred Kula, quand nos fermes seront brûlées, les vieilles femmes dresseront sur la terre noircie une borne de honte où elles graveront ton nom. Songe à nous qui périrons. Quand nous commettrons des cruautés, songe à nous comme nous songerons toujours à toi. » Il se précipitait devant elle. « Sur nos corps, tu passeras sur nos corps. Nous ne te laisserons pas t'en retourner. As-tu oublié ce que tu viens de nous jurer? Entends-tu comme on t'acclame encore de l'autre rive ?» Les uns baisaient ses mains, d'autres avaient saisi les rênes de son cheval. Elle vit bien qu'il ne lui ferait aucun mal. Même les hommes sauvages de la forêt et les quelques proscrits à qui elle avait promis leur grâce et qui, désespérés, avaient tiré leur couteau, embrassaient le bord de sa jupe. Elle leva sa cravache et cria « Laissez-moi passer !» Et les paysans s'écartèrent, frappés de stupeur. Ils comprirent son angoisse et n'osèrent plus lui demander d'avoir pitié d'eux. « Que ta volonté se fasse, princesse, » dirent-ils enfin, « ton chemin est libre. » Immobile, la jeune fille regardait, avec des yeux chargés de nostalgie, les collines boisées à l'horizon. Derrière ces collines, elle se représentait le foyer paternel, où elle aspirait à s'enfuir, comme une bête blessée vers son repère. Elle demeura ainsi un long moment, les regards fixés sur l'horizon, et ses yeux étaient si brûlants que les larmes, l'une après l'autre, y séchèrent. Puis elle fit très lentement et très doucement tourner son cheval et se remit à descendre vers le fleuve. Nul ne l'y forçait. Elle savait qu'on ne la souhaitait point là-bas, mais elle avait au cœur l'amour de la paix. Elle ne s'avançait plus avec sa belle hardiesse de tout à l'heure. Elle cheminait au pas. Le peuple, sans bruit, la suivait. On se chuchotait qu'il fallait la laisser tranquille, et personne n'élevait la voix pour la louer. Lorsqu'elle traversa le fleuve dans le grand bac, elle descendit de son cheval et, penchée sur l'eau fuyante, elle se parlait à elle-même. « Tu vois, cette eau, elle est irrésistiblement poussée jusqu'à la mer. Il n'est permis aux ondes d'hésiter. Elles doivent se jeter dans le sein puissant même s'il leur semble amer et redoutable. La rivière a beau rencontrer une baie calme, encadrée de roseaux, elle ne peut s'y attarder. Elle ne peut davantage remonter à sa source paisible. Là-haut, sous la forêt, il faut qu'elle aille en avant et toujours. Telle est la destinée. Soit la vague douce et molle qui se laisse absorber dans l'agitation du monde pour en adoucir l'amertume. Cependant, de nobles chevaliers ont quitté Kungahala et piquent des deux vers le fleuve. « Lève les yeux, Fred Kula. Regarde le roi Magnus. Sur son homme repose le lion doré, le lion emblématique. Le lion flotte dans les plis de sa bannière. Le lion brille sur ses vêtements de soie rouge. Il est lui-même le lion du Nord. Regarde ses longs cheveux pâles qui baignent ses épaules et sa fière attitude. La poussière tourbillonne devant lui. Il vient. Le sol tremble. Et son ombre noire galope au crépuscule, très longue, sur les champs. Lève les yeux, vierge. Et souris à ton époux. Ne pense pas que tu aimerais mieux te jeter sous ses sabots rapides qui volent et rencontrer la mort. » Ainsi s'achève Margaretha, la princesse de paix, de Selma Lagerlöf.